c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Connaissez-vous le Doggerland, un territoire englouti situé à une vingtaine de mètres de profondeur au cœur de la mer du Nord? Il est réputé pour accueillir de vastes colonies de harengs, mais aujourd'hui les pêcheurs de cette zone remontent dans leurs filets d'étranges vestiges, des morceaux de squelettes de mammouths ou de rennes. Ces traces préhistoriques ont entre 10 000 et 22 000 ans. Grâce à leurs recherches sous-marines, ces pêcheurs reconstituent la vie de ces chasseurs-cueilleurs. Dans Doggerland, le jeu de Daniel Snowshorf et Laurent Gilbert, vous allez devoir préparer votre tribu préhistorique. Elle devra chasser, se nourrir, cueillir, fabriquer des objets, dessiner des fresques, plein de choses. Doggerland est un jeu de gestion de ressources et de placement d'ouvriers experts que nous propose Super Meeple. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous développer 8 manches ou 6 pour des parties plus courtes qui sont divisées en 2 saisons, l'été et l'hiver, sachant qu'en hiver, il fait plus froid et il faudra souvent payer une peau supplémentaire lors de cette saison. Alors au niveau mise en place, il y a un grand plateau. Composé de cases, c'est là où l'on dévoilera de nouvelles tuiles pour permettre à vos chasseurs-cueilleurs d'avancer et de récolter des ressources. Bois, pierres, ossements, fruits ou encore de chasser le cheval, le renne, le mammouth. Chaque joueur récupère un plateau personnel où l'on posera notamment nos habitations et on récupère différentes sources. Elles sont primordiales dans le jeu, car si elles ne vous feront pas gagner de points dans le jeu, elles vous permettront d'aller faire des actions à vos ouvriers. Parmi les ouvriers, il y a les chasseurs-cueilleurs, un chef et une chamane. Le chef et la chamane ont des pouvoirs particuliers. Sur votre plateau, vous aurez également 3 pistes de développement pour augmenter sa capacité de déplacement, augmenter sa capacité de transport, augmenter sa capacité à fabriquer des outils. Et la possibilité, bien sûr, de faire des enfants, plus on est, mieux c'est, pour pouvoir donc faire plus d'actions. Dans Doggerland, on pourra toujours faire des actions même s'il nous manque des ressources. En revanche, on prendra une tuile malus, une disette, moins 2 points par ressource manquante. Alors faites attention à ça, car on peut les accumuler rapidement. Après avoir placé les tuiles de départ sur le plateau et les animaux dessus, les tuiles objectifs et les différentes tuiles artisanat, habitation, fresques, on va pouvoir commencer à jouer. Mais alors comment on joue? Dans une manche, il y a plusieurs phases. La première, c'est de la programmation d'action. On va poser l'un de nos ouvriers à différents endroits du plateau en payant un coup pour se placer. Soit pour construire un habitat, fabriquer un objet, peindre la fresque, utiliser la chamane dans son village, récolter des ressources, chasser le gibier, améliorer une capacité pour se développer ou encore faire des bébés. Vous voyez, il y a plein d'actions. Certaines ont un coup. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque action, mais elles auront tout un lien, car c'est important de construire pour pouvoir accueillir de nouveaux habitants, car s'il n'y a pas assez de place en fin de manche, vos bébés meurent. Récolter des ressources et chasser vous permettront de faire les autres actions. Car quand vous chassez, vous allez gagner beaucoup de ressources, mais il faudra envoyer plusieurs ouvriers chasseurs-cueilleurs pour chasser un gros gibier. L'un des pouvoirs du chef, c'est qu'il compte pour 2. Après que chaque joueur a programmé ses actions, on va révéler de nouvelles tuiles terrain sur le plateau central. On rajoutera des tuiles sur les cases adjacentes où se trouvent les différentes tribus, ou tuiles occupées par un mégalithe notamment. Troisième phase, la principale, on va résoudre les actions où l'on a placé ses ouvriers. On paye les ressources indiquées pour construire un village. Par exemple, je paye un bois et une pierre et ensuite je peux poser ce nouvel habitat sur mon plateau personnel. Même chose pour la création d'objets. N'oubliez pas que si c'est votre chef qui est placé, il paye une ressource de moins. Pour récolter les ressources, il suffit de déplacer selon votre capacité un de vos ouvriers sur une tuile terrain avec des ressources. Vous pouvez prendre autant de ressources qu'il y a d'ouvriers, chasseur-cueilleur, chaman ou chef qui lui peut prendre 2. Ou d'outils présents, bien sûr. Alors exemple, je suis sur une tuile avec 2 pierres. J'ai dessus un outil et 2 chasseurs-cueilleurs, je peux prendre au total 6 pierres. Je regarde ma capacité de transport. Si elle est de 2, je ne pourrais prendre que 4 bois sur les 6. Chaque ouvrier en transporte 2. En revanche, si ma capacité de transport est de 3, je peux prendre les 6. Parfois, on a mal calculé puis on est obligé de laisser des ressources en chemin. Concernant la chasse du petit gibier, c'est pareil. En revanche, pour le gros gibier, il faut un certain nombre d'ouvriers ou outils en fonction de l'animal. Une aide de jeu à chaque joueur est fournie. Elle est très bien faite pour savoir ce dont vous aurez besoin et qu'est-ce qui vous rapportera en viande, en peau, notamment pour la chasse. Les tuiles s'épuisent au fur et à mesure et les ressources seront manquantes. Concernant la nourriture, fruits et viande, il faudra la poser dans les bols correspondant sur votre plateau. Les ressources, vous les disposez au-dessus. Pour le gros gibier, vous le placez sur votre plateau dans l'une des 2 cases mémoire collective. Justement, cette mémoire est importante car si vous décidez de peindre sur la fresque, vous ne pourrez peindre un mammouth par exemple que si vous l'avez chassé précédemment et qu'il est encore dans votre mémoire collective. Vous pourrez placer un petit cube, l'animal lui retourne dans sa réserve. En payant un coût en ressources, on peut aussi améliorer ses capacités. Enfin, parmi vos ouvriers, vous avez une chamane. Un village lui est consacré. Alors bien entendu, pour faire ces différentes actions, ça sera pas gratuit et chaque action ne pourra être faite qu'une fois par partie. Je vous laisserai découvrir ces actions qui sont très puissantes, c'est grâce à elles que vous pourrez construire notamment un mégalithe qui peut vous rapporter beaucoup de points. Il faut savoir que quand un mégalithe est posé sur une tuile, les autres tribus ne peuvent plus s'arrêter dessus. Passons à l'avant-dernière phase, la migration des animaux. À chaque manche, les animaux restants vont bouger en fonction de la flèche indiquée sur la tuile. Les gros, hein, bisons et mammouths se déplacent d'une case, à contrario, les rennes et chevaux se déplacent de deux cases. Puis vient la fin de manche, il va falloir nourrir son clan. Chaque membre de votre tribu mangera une nourriture. Un fruit, la viande équivaut à deux nourritures. Hein. Si vous avez passé une nourriture, bah, il faudra prendre des cartes d'isette, hein, des malus de moins de points. Après avoir nourri tout le monde, la nourriture va se déplacer de bol en bol. Les fruits dans le bol 1 vont dans le bol 2, ce qui était dans le bol 2, viande ou fruits, bah, va dans le bol 3, ce qui était dans le bol 3, bah, est perdu, et la nourriture, ça pourrit, les amis. Ensuite, les bébés rejoignent votre tribu, j'espère que pour vous, hein, vous ayez assez de place dans vos habitats, sinon, bah, les bébés, ils meurent, hein, y a pas de place, tant pis. Et oui, à peine né, est déjà mort. Faut savoir que la mortalité était fréquente, hein, à la préhistoire. Ensuite, on va vérifier les objectifs communs. Si vous avez réussi, vous posez un petit cube pour dire que vous avez atteint cet objectif. Par exemple, j'ai réalisé 5 tuiles artisanat. Si vous êtes le premier, vous aurez le plus de points, 5, le deuxième à le réaliser aura 3, les autres 0. Ensuite, hein, on ajoutera des animaux en fonction des saisons. Bien sûr, s'il y en a déjà présent sur les tuiles, vous n'en rajoutez pas. Hein. On complète la zone artisanat, on complète la fresque, ensuite on passe au décompte final que je vous laisserai découvrir parce qu'il y a pas mal de choses à calculer. Doggerland, c'est un jeu de la mécanique qui fonctionne très bien, c'est très stratégique, il faut savoir planifier pour utiliser correctement ses ouvriers. Le jeu propose une grosse rejouabilité, le matériel utilisé tout simplement impressionnant et de très bonne qualité, avec plein de jetons en bois et même des animaux imprimés. On a l'impression que c'est un kit starter, alors que non, pas du tout, rapport qualité-prix difficile de faire mieux en ce moment. Doggerland, on continue d'en parler d'ici quelques instants dans C'est Ludique.
C'est Ludique, l'invité de la semaine.
Et mon invité aujourd'hui, eh bien, c'est Philippe, Philippe de Super Meeple. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Alors, on va continuer à parler de Doggerland. Comment Super Meeple a repéré ce projet ?
Alors, en fait, c'est parce que Super Meeple écumait... alors, à l'époque, j'étais pas chez Super Meeple, il faut bien se dire une chose déjà.
D'accord.
Quand j'ai commencé à le repérer, je ne vais pas dire du repérage, quand j'ai commencé à y jouer, on va dire, tout simplement,
ouais.
Je n'étais pas encore tout à fait chez Super Meeple. Je m'occupais juste de l'événementiel chez eux.
D'accord.
Donc, c'était du coup par coup, on va dire, sous forme de petits contrats d'animation, on va dire. Hein, mm-hmm. Voilà. Et puis, j'ai découvert ça, on va dire, c'était, si je me trompe pas, c'était à Rouen, à la Game Arena, la première partie que j'ai dû faire, et c'était Jérôme, Daniel Schnorchoff, là, qui présentait ça à peu près partout, parce qu'il était en train de le mettre au point en collaboration avec l'auteur initial, qui est Laurent Gilbert. Donc il m'avait dit, ça te dirait d'essayer de jouer? Moi j'ai dit oui, pourquoi pas. Surtout qu'il avait une bonne tête déjà visuellement, donc j'ai dit tiens oui, on va essayer, et puis il voulait avoir mon avis, donc j'ai fait une première partie comme ça. Et puis le fait ensuite, c'est que je suis rentré chez Super Meeple. On a eu l'occasion d'y rejouer une seconde fois à Orléans.
D'accord.
Une troisième fois. Et puis, comme j'étais chez Super Meeple, je leur ai dit, ben voilà, j'ai repéré un jeu qui a l'air pas trop mal quand même. Voilà comment ça arrivait, quoi.
D'accord.
Et puis, bien sûr, après, ben, de fil en aiguille, on a fini par le prendre chez Super Meeple.
Ça veut dire que les auteurs ne l'avaient pas encore présenté aux autres éditeurs?
Alors, de mémoire, je crois que non. Ils étaient justement en train de le mettre au point, sans vouloir le présenter tout de suite. Enfin, ils avaient prévu de le présenter, mais je vais dire que je suis passé dessus, on va dire, avant même qu'ils avaient pu le présenter à d'autres éditeurs ou sérieusement, on va dire, pour dire est-ce que vous le prenez, est-ce que vous le prenez pas.
Ouais. Le thème n'a jamais changé. On est resté sur la préhistoire, parce que c'est vrai que quand une mécanique arrive chez un éditeur, souvent l'éditeur a tendance à changer la thématique. Là, on est vraiment resté autour de la préhistoire, et je pense que les auteurs voulaient pas que ça change non plus.
Alors là, il faut bien se mettre d'accord sur ce jeu-là. On est parti. Alors j'ai beaucoup discuté avec l'auteur d'origine, du coup, que j'ai connu du coup juste un petit peu après avoir joué avec Jérôme. Je suis allé faire quelques parties chez lui. Il tenait un café ludique à Lille, donc c'est un gros joueur aussi. Et il faut bien comprendre que le jeu est même partie du thème, en fait.
D'accord. Hein,
donc c'est un fan de cette période-là, notamment, sachant que il a dit voilà, les hommes préhistoriques faisaient ça, et du coup il a adapté toutes les mécaniques sur justement la thématique. Donc d'ailleurs, quand on y joue à Doggerland, pour ceux qui n'ont pas essayé encore, tout le monde dit que on est vraiment un jeu où la thématique elle est vraiment intégrée dans le jeu. Et de ce fait-là, il n'était pas question question non plus de changer le thème de mon côté, ni du leur, on va dire, si on signait avec eux. Hein. Donc on était bien d'accord sur le fait qu'on était sur un jeu purement thématique. Et c'est, je vais dire, pas plus mal, parce que justement, j'ai dans les jeux, gros jeux comme ça, j'ai parfois l'impression de me faire plaisir à créer des moteurs mécaniques, à faire des choses. Mmh. Et après, on en vient à oublier le jeu lui-même, parce que justement, on sent que c'est une thématique qui a été collée, même si c'est pas forcément vrai, hein, mais on oublie le thème, alors que là, on est sur une certaine logique où chaque action va faire en sorte qu'on a vraiment l'impression de faire quelque chose à cette époque-là.
Ouais. Combien de temps de développement pour ce jeu? Ça a vraiment été un projet avec les deux auteurs, hein. Vous étiez trois. Il y a même les auteurs dans une interview, j'ai vu, qui disaient que Philippe pouvait faire partie des auteurs, tellement que tu as apporté beaucoup de choses.
Oui, alors, bon, alors pour l'antécédent, je pense qu'il a fallu à peu près 3 ans de leur côté,
oui.
Sachant qu'il y avait Colorant au départ qui était sur le jeu, qui avait constitué, on va dire, un simulateur, on va dire, carrément de la histoire,
mm-hmm.
Et pour rien cacher, une vraie usine à gaz, d'après ce que j'ai pu entendre.
D'accord.
J'ai revu des anciennes tuiles, d'ailleurs, où on va dire que c'est un mini plateau de jeu sur chaque tuile, donc c'était genre, tu lances une partie le lundi, tu la termines le vendredi, quoi. donc ça, c'était le premier projet de base qui a été repris justement par Jérôme pour le réduire à l'essentiel, à l'essence, et avoir un jeu malgré tout expert, donc qui va durer quand même une paire d'heures, hein, c'est sûr,
oui.
Mais qui va à l'essentiel de tous les éléments, avec tout en gardant la sensation justement de vivre la préhistoire. Donc ça, c'était, on va dire, je pense, 3 ans avant que Super Meeple mette le nez dedans.
Ah oui.
Le tout premier jet date de 3 ans avant, donc si je calcule, ça fait 2019-3, donc on est à 2016 à peu près,
ouais.
Du côté de Laurent. Ensuite, il y a Jérôme qui est intervenu dessus, qui a commencé à le faire tourner justement dans les festivals, donc c'est là où moi j'ai mis le nez dedans, comme j'ai expliqué juste avant, et nous on l'a signé en 2019, donc il a, ouais, fallu 7 ans à peu près. Alors, sachant que nous on a travaillé, alors je vais pas dire 4 ans, parce que 2019 à 2023 ça ferait 4, mais on va dire 3 ans parce qu'il y a eu cette histoire de Covid aussi qui oui, a ralenti pas mal les choses, donc forcément tout ça, ça a fait que le jeu a dormi un petit peu sur ses lauriers pendant presque, on va dire, un bon 6 mois à peu près, 9 mois sans rien, quoi.
Ouais.
Jusqu'à ce qu'on se décide justement à se dire bon, bah, il faut qu'on bosse dessus. Alors il n'était pas entre mes mains, en fait, le projet, il était entre les mains de Bernard de chez Super Meeple, qui lui-même était débordé justement avec cette histoire de Covid, parce qu'il a un métier parallèle.
D'accord.
Il travaille en scolaire, directeur d'une école, donc forcément on lui faisait changer les choses sans arrêt pour accepter les enfants. Enfin bon, je vais pas rentrer dans ces détails là, ça n'intéresse personne, mais du coup c'est moi qui ai repris le projet parce qu'il fallait faire avancer, et puis voilà, quoi, voilà son histoire. Et après, effectivement, on a énormément travaillé dessus. J'ai créé une version numérique, en fait, sur Tabletop Simulator,
ouais,
qui nous a permis de nous rapprocher, on va dire, numériquement, comme si nous étions autour de la table, et du coup on a bossé dessus beaucoup plus régulièrement pour le faire avancer, quoi.
Ouais, il y a eu de nombreux tests de changement de règles aussi, je suppose.
Non, c'est ça qui est assez étonnant. Alors oui, il y a eu beaucoup de tests. On va parler d'abord des changements de règles. Au niveau des changements de règles, il n'y en a pas eu tant que ça.
D'accord.
Parce qu'on avait quand même quelque chose qui était plus ou moins travaillé. À partir du moment où j'avais dit à Laurent et à Jérôme, votre jeu m'intéresse, ils avaient rebossé dessus. Et puis moi, j'avais donné déjà des choses de mon côté en disant ça, c'est beau, ça c'est bien. Voilà. Donc ils avaient rebossé dessus. Et au moment où on a signé, il y avait déjà eu, on va dire, quasiment un an de travail.
D'accord.
Donc il y avait pas mal de choses qui étaient déjà en place. Alors c'est vrai que moi je suis intervenu dessus. Alors ils sont gentils de dire que je suis un troisième auteur, parce que forcément l'éditeur a son mot à dire, forcément, ça c'est clair. J'ai l'avantage d'avoir quelques expériences ludiques, donc je les ai orientées sur mes sensations, parce que faut bien comprendre que chez Super Meeple, on fonctionne pas sur des types de jeux, mais plutôt sur des jeux qui nous plaisent.
D'accord.
Voilà, donc on est plus sur le coup de cœur que sur le dire, bah, attention, moi je vais faire des petits jeux en boîte, ou alors je vais faire que des jeux experts. C'est pas comme ça qu'on marche, hein. On aime beaucoup les gros jeux, ça c'est clair, mm-hmm, mais on ne fait pas que ça. C'est vraiment des jeux qui doivent nous plaire. On aime bien cette sensation de dire on a envie d'y rejouer.
On a eu Expédition là qui est sorti en même temps.
Ouais, voilà. Bah, de toute façon, je répondrai après. Mais de toute façon, voilà. Donc on a bossé dessus sur quelques règles ajoutées, effectivement. J'en ai fait rajouter. Alors, notamment, on a revu. Il y a une chamane qui intervient avec des pouvoirs. Donc ça, c'est des choses qui avaient été évoquées une première fois, qui n'étaient pas bonnes, qu'ils avaient enlevées, que j'ai fait remettre parce que voilà, il fallait créer des liens sur certaines choses et beaucoup d'équilibrages.
Ouais.
D'équilibrages qui ont été faits. Il y avait des ressources qui arrivaient trop, qui servaient à rien. Donc tout ça, on a intégré des règles effectivement qui font que elles sont devenues utiles et puis voire même donner plus de pression encore, de flux tendu sur le jeu, quoi. Mais en gros, il faut bien comprendre que déjà, comme on voulait conserver la thématique, on n'en pouvait pas non plus tout modifier le jeu. Donc vraiment la thématique, c'est notre premier axe, ça c'est clair. Hein, donc on voulait rester dans un jeu où on a cette sensation d'exploration, de survie, de flux tendu. Alors ça peut déplaire à certaines personnes parce qu'on n'a pas on vit au jour le jour dans ce jeu-là. Hein, donc
oui.
C'est un peu comme c'était à l'époque.
Y a une logique dans le déroulement des actions, le jeu raconte vraiment une histoire, on a vraiment un côté d'ailleurs immersif. Hein.
C'est ça, il y a vraiment une histoire, et puis moi, quand je joue un jeu à titre personnel, alors ils sont peut-être bien tombés les auteurs avec moi, parce que moi, j'étais reviewer autrefois, et quand je présentais un jeu, si la thématique n'était pas assez présente, j'avais toujours du mal à rédiger un article.
Ouais.
Alors que quand il y avait un article, avec un jeu où il y a une bonne thématique présente, j'aime cette histoire de faire croire qu'on est dans le jeu, en fait. Alors, je suis rôliste d'anciennement rôliste, quoi.
D'accord.
Et pour moi, c'est important qu'on ait cette sensation d'oublier qui on est et qu'on est rentré carrément dans le jeu et pas faire des maths, quoi.
Ouais. Les situations sont différentes d'une partie à l'autre. C'est pas évident, d'ailleurs, de prendre les bonnes décisions au début.
Et c'est ça qui est génial. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Super Meeple a dit oui, parce qu'en fait, on tombe sur un terrain qui va changer à chaque partie, déjà. Donc, c'est une exploration où les tuiles n'arrivent pas dans le même sens. Donc, on ne va pas dire que c'est forcément nouveau, mais le jeu est super bien, suffisamment équilibré, ou déséquilibré, j'ai même envie de dire, du fait qu'il peut y avoir des tuiles qui ne vont pas sortir tout de suite, et il faut s'y adapter. Donc, c'est équilibré dans le sens thématique, parce que justement, on peut se retrouver avec un terrain qui était très bien quand on a fait sa première partie, où on va trouver des animaux à foison, voilà, tout se passe bien. Et la partie suivante, on se dit « Ah, j'aurais dû faire ça ». Et quand on y retourne, et ben, les animaux veulent pas sortir tout de suite, et du coup, faut s'adapter. Et c'est ça qui est vraiment la sensation dans le jeu-là par rapport au niveau de la préhistoire, c'est que on vit au jour le jour à l'époque, et là, on vit de manche en manche durant les parties, et à chaque fois, ça peut changer, quoi.
Bon, on va parler aussi de l'illustrateur Emmanuel Rodier, qui est un spécialiste de la préhistoire.
Alors oui, il y a deux illustrateurs, pour être précis quand même, sur ce coup-là, puisque le second, c'est Yvan Villeneuve. Emmanuel Rodier était le premier qu'on a visé. Alors, on cherchait un illustrateur qui... Pour la conduite du projet, je voulais une illustration, encore une fois, où on se sent vraiment dans le jeu. Donc, on cherchait quelqu'un qui est capable de faire, on va dire, presque un illustrateur de jeu de rôle.
Ouais.
Et j'avais pensé notamment à Guillaume Tavernier, qui était très bon aussi, on a failli le prendre. Du coup, on est passé sur Emmanuel Rodier parce qu'on a eu l'occasion de l'avoir. Donc, on a dit oui tout de suite parce que forcément, qui dit préhistoire, on pense à Emmanuel Rodier parce qu'il est également l'auteur de la bande dessinée Néandertal et du jeu de rôle Wurm, je ne sais pas comment on dit exactement. Voilà, et au-delà de ça, c'est également un conférencier sur la préhistoire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est fan de la préhistoire par la même occasion. Donc on pouvait pas mieux tomber. D'ailleurs, il y a eu des choses assez marrantes quand on discutait avec lui, parce qu'on disait, non, on aimerait bien que... Sur la couverture, on voulait une herbe plus jaune, mais il a dit, non, pas question. Dans le Doggerland, l'herbe n'était pas jaune, on n'était pas dans le sud, hein. Il faisait de la pluie, etc. Donc c'est assez marrant, parce que justement, il a également joué le jeu du thème, finalement, et de la réalité. Alors bien sûr, on s'est quand même fait des choses assez permissives dans le jeu, parce que ça reste un jeu avant tout, hein, bien sûr.
Oui.
Mais donc c'est sûr que quand on partait avec des outils, faire quelque chose qui était dans le jeu, ils n'étaient pas forcément à défausser à la fin de l'action. Hein, mais voilà, donc il y a des choses comme ça où il faut s'adapter. Mais Emmanuel Rodier était vraiment l'illustrateur idéal. Et on a travaillé, par exemple, sur la couverture. On a fait mais je ne sais pas combien de tests pour arriver à avoir une couverture. On a même failli le perdre parce qu'on lui a fait recommencer je sais pas combien de fois, oui. Voilà, donc il y avait
sublime,
un bison.
Alors,
avec le bison, on était trop indien, donc on s'est dit, ça fait trop indien, donc on peut pas faire ça parce que ça n'avait pas appris l'histoire. Et on voulait éviter le mammouth quelque part parce que c'était trop cliché quelque part. Et finalement, on l'a gardé, mais avec rien que l'angle de caméra, on a fait recommencer trois fois le dessin. C'est-à-dire qu'on voulait que le mammouth soit imposant, donc l'air de rien, quand on regarde la couverture, on est sur un angle en vers le bas, en fait, depuis vers le haut, donc en contre-plongée, comme ça, et ça donne beaucoup d'effets, quoi. Et ça, ça a été énormément de travail du côté de chez Emmanuel Roudier. Alors maintenant, il faut bien comprendre, c'est une personne qui a également ses propres choses à faire, et c'est pour ça qu'il s'est fait assister. C'est lui qui nous l'a conseillé, en fait, Yvan Villeneuve, qui est également dessinateur de bande dessinée, qui lui a fait une grosse partie aussi, tout ce qui est tuiles, par exemple, etc. Il a travaillé en collaboration avec Emmanuel Roudier, donc il faut bien le mettre en avant aussi, et il fait un travail de fou, parce qu'il a travaillé, par exemple, sur le plateau, en fait, et le plateau, c'est bourré de détails. Si vous allez avec une loupe, on se dit, mais c'est fou, quoi. Il a dessiné tout, je sais pas comment il a fait, mais il a dû faire carré par carré. Mais si on regarde, il y a vraiment beaucoup de détails, et on est vraiment aspiré, en fait, dans le jeu. En fait.
Ouais, c'est ça. Il nous reste une petite minute, Philippe.
Ouais, vas-y.
J'ai entendu dire que Doggerland était le premier d'une trilogie. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur le second?
Alors ça, c'est l'auteur qui a dû dire ça.
C'est l'auteur.
Voilà. Alors c'est vrai que si on prévoit effectivement peut-être une extension. Hein, donc tout ça va dépendre du
succès
du
jeu.
Ouais. Forcément, ça c'est difficile à dire à l'avance. Pour l'instant, ça tombe pas trop mal. Hein. Le jeu marche assez bien au niveau du public. Une trilogie, ça sous-entend trois grosses boîtes, hein, si on parle comme ça. Donc commercialement, c'est pas forcément faisable. Par contre, une extension, oui. Et si extension il y a, je vais quand même les laisser travailler là-dessus en donnant quand même un petit cahier des charges en disant vous pouvez pas dépasser ça, vous pouvez pas, voilà. Et ça serait bien quand même, malgré tout, que ça reste une extension, par exemple, dans la continuité. Ouais. C'est-à-dire que on passe les années et puis on passe sur la suite de ce qui peut arriver à sa tribu, quoi. Et ça, on aimerait bien ce côté histoire de la tribu. Je pense que ça peut rester faisable, oui. Ceci dit, si le jeu fonctionne bien, pourquoi pas ressortir un Doggerland 2 dans une grosse boîte. Je sais qu'il a des idées, hein. Oui.
Ouais, d'accord. Ok. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Philippe, d'avoir été ce matin dans C'est Ludique. Et puis, on aura l'occasion de reparler de toutes les choses qui arrivent chez Super Meeple, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait une extension aussi pour Ark Nova qui arrivait à l'automne.
Oui, ça arrive en octobre, extension de Ark Nova. Voilà, on a Expédition qui marche très très bien en ce moment aussi. Voilà, donc si un jour vous referez une interview, il n'y a pas de souci.
Très bien, merci beaucoup Philippe et à très bientôt.
Merci à vous, bonne journée.
Au revoir.